Cette présentation va être faite à deux voix, donc avec Cécile Regnault, qui est architecte, donc à l'université. Tu veux te présenter toi, peut-être ? Parce que je commence. L'université de Lyon, à l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon, et à l'UMR Environnement, Ville et Société, et donc moi-même qui suis maître de conférences en géographie à l'université Paris 1, Panthéon Sorbonne, membre de l'UFR IREST et de l'équipe d'accueil IREST. Donc, présentation interdisciplinaire hein, de deux membres de l'équipe PLUPAT. Donc, le titre est le PLUI, par un des deux, patrimonial, une ressource pour le projet de territoire. Donc, cette présentation a pour but, l'étude des liens entre PLUI et projet de territoire. Et puis, on pourrait trouver surprenant qu'elle intervienne en dernière partie, dernière session, hein, puisque effectivement, ce projet de territoire va aussi normalement conditionner certains aspects, dont dimension réglementaire. Donc, projet de territoire lui-même, qui constitue un concept de l'aménagement hein, au-delà de sa transposition juridique, dans les outils de l'urbanisme, donc une rapide introduction hein, sur ce concept de projet de territoire. On parle de projet de territoire, projet urbain, projet de ville. Et donc on voit hein, une déclinaison à différentes échelles spatiales ou selon différents plans. Alors la notion de projet de territoire, on situe hein, François Thomas, situé sa naissance dans les années 70-80, était à l'université de Saint-Étienne, ou Jacques de Courson, hein, dans la prospective des territoires, en 1999, disait « Le plan est mort, vive le projet ». Donc le PLU, justement, hein, constitue un moment décisif du passage au vocable du projet, comme le rappelle hein, Romain Melot, donc, je le cite, hein, qui entérine le passage de la sectorialisation à l'enchevêtrement des politiques et qui entraîne aussi hein, la mise en avant, on remplace la notion d'espace par la notion de territoire et on diffuse un modèle de gestion partenariale. Donc là, je cite toujours Romain Melot. Et donc, il évoque une politisation du plan local qui se traduit par l'articulation d'un projet, le PADD, à des normes de réglementation hein, associées à un zonage. Et puis, dernière référence, hein, Gilles Pinson, urbaniste, politiste, évoque également la dimension politique du projet. Alors, lui évoque le projet urbain. Il appelle à le lire hein, comme un mode d'action. Alors évidemment, on n'est pas sur projet de territoire, mais je pense que le lien est intéressant à faire. Comme un mode d'action visant à produire une mobilisation des acteurs, un consensus sur les orientations envisagées et à énoncer une identité collective de la ville. Donc, on verra dans quelle mesure hein, cela se traduit effectivement dans le PLU-PLUI. Alors, il relève néanmoins hein, une contradiction latente au cœur du projet de territoire, donc toujours hein, en suivant Gilles Pinson, entre l'affirmation d'un leadership à travers hein, la mise en œuvre d'un projet de territoire, d'une vision, et puis en même temps sa dimension procédurale, incrémentale. Et donc, il dit, il faut distinguer hein, le métaprojet des projets ponctuels qui le concrétisent à différentes échelles. Donc voilà, on ne développera peut-être pas cette articulation, parce que le temps manque, on va raccourcir un peu notre présentation, mais on pourra le garder en tête, et notamment peut-être lors des échanges.
Alors, on se passe la parole. Je vais reprendre quelques éléments qui ont été soulignés hier lors du débat, puisqu'on a mis au centre, finalement, de notre analyse transversale des PLU, le PADD, d'évidence, puisqu'en amont des règlements, c'est évidemment la pièce maîtresse fondatrice du projet de territoire, qui en énonce les orientations générales et qui constitue en fait un document de référence dans les choix, comme on l'a dit encore une fois hier de manière assez par Julie Marchand, les choix politiques finalement qui sont opérés par les collectivités et partagés ou non par, avec les citoyens. Et en ce sens, on peut dire que le PADD, c'est le cœur du réacteur du PLU parce que de fait, justement, si la dimension patrimoniale fait partie des éléments contributifs du projet urbain, elle doit logiquement trouver une place dans l'énoncé de ce PADD, qui est un élément qui est de l'ordre du discours, hein, c'est un art du langage, le PADD, finalement, assez peu illustré, c'est ce qu'on a constaté, en fait, donc peu spatialisé, en fait, ce sont quand même des intentions qui sont peu spatialisées. Et donc, le patrimoine, qui est une dimension qui n'est pas obligatoire à ce stade d'écriture, mais se retrouve, on va dire, fondu parmi les autres thématiques qui, elles, sont attendues dans les PLU, comme le développement économique, le transport, le logement, la gestion des ressources naturelles, les politiques environnementales. Je dirais que c'est autant de questions sociétales qui sont portées ou non par les élus et qui vont faire l'objet d'une articulation, puisque l'enjeu pour la collectivité dans ce PADD, c'est d'énoncer justement dès le départ des bonnes articulations entre toutes ces intentions de projets qui peuvent aller du développement jusqu'à décroissance, j'exagère un peu, mais parce que parfois aussi on ne fait pas que développer des territoires, il y a aussi des projets qui peuvent ces intentions en fait de développement ont forcément un ancrage dans l'histoire locale, entre autres préoccupations de ce que j'ai cité avant. Alors la place centrale effectivement du PADD dans ce rapport, on a principalement, comme je disais tout à l'heure, étudié finalement ces textes de PADD pour comprendre comment le patrimoine s'articulait au projet territoire dans ce cadre-là.
Alors les questions qu'on s'est posées, première question, quelle place pour le patrimoine dans le projet de territoire? On développera dans une première partie. Le passage au PLUI, justement, quel changement dans le projet de territoire avec la compétence PLU intercommunale, et comment le patrimoine est énoncé donc à une nouvelle échelle? Est-ce simplement un élargissement ou une nouvelle façon de le considérer, voire de le définir? Et je pense qu'on abordera, on n'a peut-être pas le temps d'aborder, la question en tout cas du rôle du patrimoine dans les projets urbains particuliers au sein du PADD. On pourra conclure là-dessus. Donc en première partie, la place du patrimoine dans le PADD. Donc là, il s'agissait d'examiner à partir des grilles d'analyse des PLU, des PLUI, la façon dont cette thématique patrimoniale est intégrée au projet urbain. Quelle place occupe-t-elle au sein des orientations, au sein des axes, et quel type d'espace aussi, comment est-elle spatialisée au sein de ce PADD? Donc, question appréhendée à partir d'un échantillon pour vérifier si effectivement les grandes villes françaises planifient le projet de territoire en intégrant les richesses patrimoniales présentées par ailleurs en diagnostic, etc. Donc voir des scénarios d'association à la thématique, c'est-à-dire des territoires qui font du patrimoine un outil essentiel de leur projet ou d'énonciation de leur projet, et d'autres pour lesquels la thématique peut être plus périphérique. Donc trois questions posées, le patrimoine est-il fondateur d'une ou plusieurs orientations majeures du projet? Est-il un sous-point, un passage thématique obligé? Est-il facteur d'unification territoriale, élément privilégié de relecture, de mise en narration du territoire? Ou constitue-t-il une caractéristique de certains territoires? Et quels objectifs sont assignés au final dans un projet de développement ou de décroissance au patrimoine? Donc ça nous amène à identifier plusieurs scénarios. On a utilisé plusieurs méthodes. D'abord, à travers une analyse, on va dire, lexical des PADD. Alors, on va montrer que quelques exemples très rapidement sur la méthode. Donc, chacun des PADD, documents PDF, est expurgé de des différentes illustrations, photos, etc., pour ne garder que le texte. Texte qui constitue donc un corpus, et corpus qui peut faire l'objet d'une analyse lexicale. Donc là, c'est le logiciel Iramutech qui opère à partir de segments de 20 mots, une classification ascendante hiérarchique sur ces segments, pour faire apparaître, on va dire, des énoncés qui renvoient aux mêmes thématiques. Donc par exemple ici, pour le PADD du PLUI strasbourgeois, 6 classes de discours apparaissent à partir du PADD. Là, il n'y a pas d'intervention de notre part, c'est-à-dire c'est une matrice qui va comparer tous les énoncés les uns aux autres pour faire apparaître les mots-clés qui reviennent le plus, mais structurant ces mots-clés en fonction des énoncés dans lesquels ils se trouvent. Et ce qui est intéressant dans le cas Strasbourg, ce n'est pas le cas de tous les PADD, c'est que la question de la préservation, la question du patrimoine, constitue le cœur d'un ensemble d'énoncés qui constitue le quart du discours du PADD de Strasbourg. On voit à côté, donc c'est la classe 4, la classe 6 renvoie aux éléments d'attractivité, de rayonnement de Strasbourg. D'autres évoquent, classe 2, les transports, etc. Mais voilà, en tout cas, on peut bien identifier une thématique patrimoniale plutôt rattachée aux éléments naturels. Dans le cas de Rennes, PLU de Rennes, on identifie également une thématique patrimoniale qui est configurée différemment. Ce n'est pas la préservation d'un patrimoine naturel qui va être mis au cœur dans un cinquième des discours, mais on voit un projet urbain, histoire, ville, patrimoine. Et Iramutech permet également de faire apparaître les énoncés les plus symptomatiques d'une classe, c'est-à-dire là, ce sont des extraits du PADD qui utilisent le plus de mots qui renvoient à cette classe. Et on voit, on évoque l'époque, la géographie, la continuité entre l'histoire de la ville et les projets de demain, les contextes variés. La deuxième citation évoque toujours les continuités urbaines et paysagères, le projet urbain et la géographie de la ville. Et le troisième, le patrimoine, la créativité architecturale et urbaine. Donc on voit, le patrimoine est présent dans les mêmes proportions que dans le cas de Strasbourg, mais son association est faite avec d'autres vocables, et donc pour dire autre chose, c'est un autre discours qui est produit à partir de Rennes. Alors on pourrait montrer d'autres PADD où le vocable patrimonial est absent, ou en tout cas très peu présent, ne ressort pas. C'est le cas par exemple de celui de Paris, quand bien même il y a des dispositifs ensuite au sein du PLU. Et dernier exemple, puisqu'on a parlé de la Riche hier, là on voit l'association de la mise en valeur du patrimoine. Le deuxième mot le plus utilisé dans cet ensemble, 22%, c'est la Loire, la Presqu'île, la Confluence. Donc on voit une autre association du vocable patrimonial dans le projet de territoire. Donc on n'ira pas plus loin dans ces exemples, mais pour montrer effectivement la façon dont le patrimoine pas seulement est présent, on a compté pour chacun des PLU combien de fois la racine patrimo est présente, patrimonial, patrimoine, etc. Mais là aussi l'intérêt c'est de voir comment il s'articule aux autres mots du PADD. Deuxième façon de lire des scénarios de cette patrimonialisation, c'est d'identifier dans quelles orientations est présent le patrimoine. Et là, on peut aussi identifier différents cas de figure. Premier cas de figure, assez fréquent, celui où le patrimoine est une composante, un élément qui compose une orientation attractivité, et on va retrouver ça beaucoup, ça peut sembler logique, dans des villes qui disposent d'un cœur, d'un centre-ville UNESCO, c'est le cas ou d'un périmètre UNESCO, pardon, c'est le cas de Tours, une orientation qui envoie l'attractivité et qui l'articule à la question patrimoniale, c'est le cas du Havre, dans les quatre orientations, la première, faire du Havre une ville attractive et dynamique, le patrimoine du centre-ville reconnu à l'UNESCO est mis en avant. À Orléans, une unique orientation évoque le patrimoine, c'est celle qui parle du renforcement de l'attractivité et du rayonnement, et on évoque là un patrimoine remarquable et l'enjeu de l'économie touristique. Donc on voit une première série d'objectifs assignés au patrimoine dans le PADD, plutôt sur des espaces centraux. Deuxième type d'orientation, celle qui évoque plutôt les cadres de vie, la qualité de vie. Là, on la retrouvera de façon mineure à Paris. Là, une des quatre orientations évoque la qualité de vie, le paysage architectural et urbain. Le patrimoine est appréhendé comme paysage urbain, essentiellement dans ce PADD. À Rennes, la question patrimoniale est évoquée aussi dans l'orientation 2, une ville au service de ses usagers. Et à Lille, la qualité de vie comme orientation et le patrimoine urbain en constituent aussi explicitement un élément constitutif. Remarquons que ce n'est pas des orientations qui s'excluent mutuellement, mais qu'elles coexistent et que le patrimoine est également présent parfois dans l'une et l'autre. Pour dire alors des choses différentes, le patrimoine dans ces orientations peut coexister au sein d'un même PADD, et on peut se demander alors de quelle façon le patrimoine est-il appelé à jouer un double rôle dans le projet de territoire. Souvent, ça renvoie à un partage, on pourrait dire, spatial. Dans ces PLU, les patrimoines au centre sont surtout au service d'un discours de l'attractivité, du rayonnement, du développement d'une économie touristique. Les patrimoines en dehors du centre renvoient à des enjeux de qualité de vie, servent à distinguer des quartiers. Et donc on a un double discours identitaire, un patrimoine d'identité du territoire, mais aussi qui distingue sur ce territoire différentes identités. Donc ça renvoie la dernière orientation dominante au sein de ces PADD, celle où il renforce l'identité de la ville. Par exemple, le PADD du PLUI de Strasbourg dissocie et spatialise différemment ce qui renvoie à la qualité de vie, ce qui renvoie à l'identité urbaine. Le patrimoine dans les quartiers vise à mettre en avant donc l'identité de chacun des quartiers. Là, pour le comprendre, il faut remonter à la genèse du PLUI qui découle d'un poste qualitatif à la fin des années 90 qui était porté par des revendications associatives et qui a perduré et qui est devenu même la méthodologie de réalisation du PLUI dans les années 2010. Donc voilà un peu pour ces différents scénarios. Ce qui nous amène ensuite à évoquer les types patrimoniaux.
Voilà, de rentrer un peu dans le détail de cette notion d'identité, finalement, le patrimoine ressource de l'identité urbaine, l'identité d'un territoire. Et on essaie de regarder quels étaient les facteurs d'identité qui ressortaient en fait dans les différents PLU. Un des premiers, mais qui paraît évident, mais il faut toujours dire les évidences, c'est le patrimoine naturel, qui est l'identité du territoire dans le sens des éléments de la géographie, en fait, constitue en elle-même déjà une dimension qui porte des qualités intrinsèques au projet urbain, qui ne peut plus ignorer, enfin ne peut pas ignorer quelque part ce patrimoine naturel, donc il va se ressaisir et qui est quand même une dimension intrinsèque pérenne du territoire. Donc par exemple dans le cas de Grenoble, où le PADD donne un chapitre entier sur cette dimension-là, mais c'est pas le seul, le projet d'urbain devient un projet de paysage en tant que tel à l'échelle de la ville entière. Évidemment, c'est la montagne qui fait le lien entre tout cela, mais il y a aussi les notions de vue sont très importantes, et on a parlé tout à l'heure des cônes de vue, mais également évidemment l'hydrographie et donc les rivières sont un des fondamentaux de ce type de PLU quand le patrimoine naturel est mis en avant comme élément identitaire. Et en effet, dans presque toutes les villes qui ont un fleuve ou une rivière, on va voir donc cette dimension-là finalement être un lien fédérateur évident pour porter le projet de territoire, mettant en cohérence justement, alors pour le coup justement l'attribution des dimensions écologiques, trame vert, trame bleu, qui vont s'associer à la dimension patrimoniale, mais aussi celle du risque, on en a parlé aussi hier, pour anticiper les inondations, et je dirais qui renvoie aussi à une dimension humaine d'attachement, par exemple sur la question de la reconquête des fleuves, des habitants à leurs fleuves et à leurs rivières. Un principe qu'on voit aussi apparaître quand on regarde les patrimoines qui mettent en avant la dimension nature, c'est ce qu'on appelle le principe d'équilibre ville-bâtie-nature, est un motif assez courant des projets urbains, comme par exemple sur la ville de Nice, qui prône dès ses premières orientations du projet une ville-paysage, facteur d'attractivité. Donc, comme le disait Sébastien, en fait, ça croise ensuite effectivement des notions d'appel touristique évident. Dans le cas de Montpellier, l'argument du patrimoine végétal est celui de l'équilibre justement entre un projet urbain qui va osciller entre une urbanisation et des vides, donc des zones à urbaniser avec des zones dites calmes. Donc on a cet écart justement encore entre ville-nature. Alors comme je disais tout de suite aussi, le patrimoine naturel fait un lien unificateur entre des patrimoines bâtis remarquables, et on a l'exemple du PLU de Rennes, du PADD de Rennes, où l'on relie les patrimoines bâtis remarquables du centre sur un nouveau lieu de promenade structurante, en fait. Donc c'est par cette idée de patrimoine naturel que la mise en avant du patrimoine bâti à travers justement une dimension, on va dire, plus liée à la géographie du lieu. Évidemment, le patrimoine bâti est un des facteurs aussi d'identité, on en a beaucoup parlé hier, qui est surtout quand il est groupé et qui forme une centralité, et à ce titre, ça devient souvent il convoqué pour affirmer l'identité justement d'une centralité et de son développement d'une centralité, donc c'est plutôt un urbanisme qui est à partir d'un centre et développer la ville autour de ce centre. Plus largement, la notion aussi de patrimoine urbain, au sens de composition urbaine homogène, va être convoquée pour façonner l'identité plutôt de ce qu'on appelle des tissus urbains, alors convoquée dans les projets de trames fortes pour étendre et identifier certains quartiers. Donc ça, c'est une autre manière. Donc j'ai relevé cette notion surtout dans le PADD de Lyon. Une des dimensions aussi, donc là, les ensembles patrimoniaux urbains homogènes, de la même manière, sont repris beaucoup plus fréquemment qu'un patrimoine isolé. Ça paraît évident, mais encore une fois, quand on a des listes de patrimoine isolé, ça ne peut pas faire projet urbain. Il faut évidemment travailler sur des ensembles patrimoniaux qui sont inscrits au PLU pour pouvoir être dans cette logique-là. Et l'exemple des grands boulevards à Grenoble, dont l'inscription des façades, des alignements d'arbres, donc là, on croise en effet du bâti et du végétal sur une même ligne, et conforte aussi l'intention de garder des vues sur la montagne en respectant des continuités, des perspectives ouvertes sur le paysage, voilà, qui constituent cette manière de faire ville à partir des éléments patrimoniaux croisés. Alors, il ne faut pas oublier que aussi les quartiers périphériques sont aussi nommés comme étant parfois des nouvelles centralités identitaires fortes. Donc, j'ai relevé ici l'exemple de Montpellier qui met en avant dans son PADD la notion de faubourg pour justement développer la ville autour de faubourgs pour essayer de les maintenir dans leur intégrité. En tout cas, ça a été un élément fédérateur. Ou bien, par exemple, dans les quartiers à Grenoble, on a des identités de quartiers des années 70, notamment le village olympique qui a été, dont l'inscription au label 20e est donc mentionnée dans le PLU, a une influence extrêmement positive sur la réhabilitation de tous les quartiers justement périphériques de la ville de Grenoble. Parmi d'autres, hein, parce que c'est pas le seul, mais en tout cas, il a eu un aspect extrêmement bénéfique. Sur un exemple aussi de PLU, le PLU de Toulon, en termes de, insiste sur la richesse des quartiers pavillonnaires comme étant aussi en effet une identité particulière, parce que souvent, en fait, effectivement, le quartier pavillonnaire est plutôt stigmatisé dans les PADD. Là, c'est l'inverse. En fait, c'est le fait que ce pavillonnaire représente effectivement le développement de la ville de Toulon et l'idée étant de préserver ses caractéristiques architecturales pavillonnaires. On a aussi repéré alors peut-être de manière moins forte, mais la présence de patrimoine ordinaire, porteur d'identité, alors cette fois-ci, qui vont peut-être pouvoir être qualifiés d'identité sociale, qui pourraient influencer effectivement aussi des politiques de projet de territoire. Alors, il y a des choses assez anecdotiques, mais quand même, je trouve que c'est intéressant de les nommer. Il me semble que Vincent Véchambre a fait allusion à cela hier. À Villeurbanne, par exemple, on voit dans le texte préconiser des projets qui favoriseraient le maintien des jeux de boules au titre d'une pratique largement ancrée sur le territoire de Villeurbanne. Effectivement, ça n'est pas un patrimoine c'est un patrimoine qu'on pourrait plutôt qualifier d'immatériel, puisqu'on est plutôt dans des usages, en fait, et des qualités de l'espace public. Mais en tout cas, ça passe par justement à l'échelle du PLU, ce patrimoine qui est non reconnu évidemment par l'État peut faire l'objet d'une attention particulière dans les projets, voire dans la déclinaison des projets aussi d'OAP ou d'autres types de procédures. On fait la conclusion de la première partie. Du coup, je te laisse la main.
Oui, en fait, bon, juste très rapidement. Hein, donc, l'idée, c'était de montrer le registre, hein, les registres d'utilisation du patrimoine dans le PADD. Hein, alors, fonction d'attractivité, ressources identitaires, facteurs de qualité de vie, mais en même temps, ce qu'on traitait ici, hein, des éléments patrimoniaux qui fonctionnent comme unificateurs du projet urbain et patrimoine comme opérateur. Là, c'est plutôt ce qu'on verra par la suite. Alors, deuxième partie, hein, donc du PLU au PLUI, et on se repose la question toujours du projet territoire, hein, parce que c'était le thème général, donc avec une question nouvelle, hein, posée par les recompositions territoriales, montée en puissance des démarches PLUI, avec la création d'un club PLUI en 2012, piloté par l'État, mais associant des représentants de différentes communautés, encouragé dès 2010, hein, par la loi Grenelle 2, puis davantage encore par la loi Allure, avec l'horizon 2007, hein, pour le transfert de la compétence, et enfin par la loi Égalité et Citoyenneté de 2017. Alors, quels changements peuvent être identifiés, hein, lors de dans la relation entre donc patrimoine et projet de territoire à cette nouvelle dimension, nouvelle échelle? Donc, on décline la question de trois façons. Quelle place pour le patrimoine dans le projet de territoire à l'échelle intercommunale? Est-ce qu'il s'agit d'une démarche radicalement nouvelle, ou recycle-t-on des inventaires réalisés par ailleurs sur chacun des PLU? Alors là, ça présuppose en termes méthodologiques une démarche, une lecture historique ou plutôt généalogique, c'est-à-dire qui retrouve, hein, dans les documents ancien jusqu'au POS, des éléments de continuité ou de rupture dans l'énoncé d'un projet de territoire. Cette question, on peut également la poser du point de vue des méthodes. Quelle méthode de prise en compte des éléments patrimoniaux? On parlait des ressources nécessaires, de l'articulation des inventaires, à des démarches participatives. On parlait également ce matin de la difficulté de conduire des mobilisations citoyennes à d'autres échelles, hein, l'expertise s'opérant aux échelles communales, voire infracommunales, dans la relation élaboration du PLU. Et puis, dernière question, hein, qu'on ne fera que poser, hein, qu'on ne traitera pas là, mais la démarche PLUI implique une collaboration entre le PCI concerné, les communes membres, donc pose la question aussi de forme de gouvernance. Hein, et puis, en même temps, on peut se demander, est-ce que ces démarches de constitution, de projet de territoire avec une mention patrimoniale constituent un élément de dissensus entre élus, avec des mobilisations citoyennes, ou au contraire, produisent de nouvelles formes de consensus? Donc première question qu'on peut poser, hein, est-ce qu'on a une relecture du territoire à cette nouvelle échelle? Alors on a eu peu de PLU qui constituaient des PLUI, hein, dans la durée du programme et sur l'échantillon qu'on avait sélectionné, donc on va raisonner sur un nombre réduit d'entre eux pour essayer quand même d'en tirer des pistes ou des hypothèses. Sachant que la comparaison n'est pas aisée, hein, puisqu'il faut également considérer l'ensemble des PLU précédents. Voilà, donc premier exemple, hein, le PLUI de Strasbourg, où la question patrimoniale est évoquée à plusieurs échelles. Alors, juste pour contextualiser, le PLUI de Strasbourg remplace pour la commune de Strasbourg un poste, mais des PLUI sur les autres communes. Mais c'est bien la commune centre de Strasbourg qui a été modèle de la démarche patrimoniale. Et on trouve, hein, néanmoins dans le PLUI plusieurs échelles, hein, permettant d'aborder le patrimoine. On trouve la mention d'un patrimoine paysager, de grands ensembles structurants, de perspectives paysagères à l'échelle de l'agglomération, voire au-delà, des perspectives vers les Vosges et la forêt noire qui encadrent, mais qui sont bien en dehors du territoire. Un patrimoine architectural et urbain et un patrimoine donc naturel. Donc on peut faire l'hypothèse que le changement d'échelle induit donc une réflexion, hein, sur les éléments structurants du territoire qui ne sont pas seulement des hauts lieux, mais qui fonctionnent aussi comme référence, voire comme ligne de force visuelle, produisant de nouvelles formes de continuité. Je vais prendre deux exemples qui me semblent révélateurs de cette logique. L'une constitue donc une OAP, thématique, les coteaux de Hausbergen, qui s'appelle Secteur Ouest, les belvédères de la métropole à valoriser, qui préserve des coteaux en tant qu'espace belvédère, mais aussi comme ligne d'horizon. Donc on retrouve, hein, l'idée d'un espace visible et voyant. Alors différents enjeux sont mentionnés, mais notamment protection de paysages remarquables, point de vue sur l'agglomération, éléments structurants du patrimoine naturel et bâti, et donc une démarche, hein, qui constitue un patrimoine qui en même temps est un point de vue sur le territoire métropolitain ou un point de vue visible depuis de nombreux points du territoire métropolitain. Je vais passer au dernier exemple, hein, un patrimoine en série qui est une autre démarche d'identification d'un patrimoine qui vaut à l'échelle métropolitaine. Donc là, dans la partie réglementaire, au zonage est identifiée la zone UAA et UAB, UAA renvoyant au tissu ancien villageois traditionnel qui compose chacun des centres-bourgs des différents villages sur le territoire eurométropolitain, UAB les tissus anciens des quartiers de Strasbourg, et là à l'agence d'urbanisme cet élément était évoqué directement comme une façon de construire une continuité à travers la préservation d'un bâti traditionnel aux caractéristiques similaires dans les différents villages. On se rapprocherait alors, hein, de ce qu'on peut appeler une sorte de bien patrimonial en série d'une certaine façon, où on retrouve, hein, dans chacun de ces centres-bourgs, par exemple le Schlupf, qui est un très léger recul des implantations sur des bâtiments qui ont pignon sur rue, donc voilà, c'est un nom alsacien, hein, donc désolé, mais qui est identifié comme une caractéristique traditionnelle qui donne une identité au territoire parce qu'on le retrouve sur l'ensemble du territoire métropolitain. Donc on voit deux logiques: la perspective belvédère, c'est un élément paysager visible depuis l'ensemble de la métropole, donc nouvelle échelle de réflexion du patrimoine, et le Schlupf ou ce bâti urbain traditionnel, un élément disséminé qui diffracte en quelque sorte l'identité sur l'ensemble du territoire métropolitain. À l'inverse, hein, je prendrai un autre exemple, l'exemple du PLUI du Mans en cours de constitution. Donc je n'ai vu qu'une version pour l'instant intermédiaire hein, du projet, mais où la dimension patrimoniale est plutôt écartée. Hein. On pourrait dire qu'on est sur un PLU qui met peu en avant, en dehors d'un patrimoine remarquable, les éléments du patrimoine bâti, mais au nom là aussi hein, d'une démarche métropolitaine, puisqu'il s'agit essentiellement de préserver les richesses paysagères, le grand paysage identifié comme élément d'identité locale, également visant à préserver, à modérer pardon, la consommation d'espace. Et donc, voilà, il était expliqué là à différents moments que cet accent mis sur la modération de la consommation d'espace justifiait une démarche plus prudente sur la préservation patrimoniale en faveur d'une densification. Donc on voit aussi hein, que c'est l'échelle métropolitaine là, qui justifie une certaine réserve sur une démarche patrimoniale. Et puis, troisième exemple...
c'était aussi pour lancer le débat, parce qu'on arrive presque au terme de notre présentation, l'idée d'une nouvelle catégorie, alors qui n'apparaît pas en tant que tel, le mot n'est pas lâché en fait dans les documents, mais les PLUI récents qu'on a pu examiner peut-être font ressortir l'idée d'un nouveau type de patrimoine, peut-être un renversement de manière de prendre les choses comme étant un patrimoine territorial, alors pas ou métropolitain à projet, dont on a parlé tout à l'heure, je crois que c'est Arnaud qui avait lancé cette référence. Et l'idée, c'est que ce patrimoine territorial serait à l'articulation entre l'histoire des sites, donc patrimoine urbain, grands ouvrages, ensemble homogène bâti, mais aussi évidemment leur géographie et leur paysage, comme on vient de le noter à plusieurs reprises, et aussi une dimension qui est quand même ultra présente et parfois tellement centrale dans les nouveaux PLUI, c'est l'écologie et la biodiversité. On trouve même le terme de patrimoine des espèces aujourd'hui, en fait. Les espèces deviennent un patrimoine qui est en tant que tel. Alors, on peut discuter de ça, justement. Enfin, en tout cas, le terme est posé en tant que tel. Donc, ce patrimoine de territorial ferait la synthèse des valeurs donc, d'un territoire plutôt que d'en opposer les qualités. Et c'est tout l'enjeu en fait de ces nouveaux PLUI, c'est d'intégrer la dimension patrimoine, non plus d'en faire des chapitres à part, mais bien de trouver la manière de les articuler au reste. Et parfois, ça, alors je vais reprendre l'exemple de Grenoble, où d'évidence en fait le PLUI suit le PLU antérieur et parle d'une métropole montagne. Architecturé par l'eau, donc on a les deux éléments qui reviennent, l'eau et la montagne, comme un élément unificateur en fait des patrimoines de toutes les communes qui font partie du PLU. Donc une deuxième idée aussi pour lancer les débats, l'idée c'est que pour moi, enfin en tout cas pour nous, ce qu'on a repéré, c'est qu'on voit s'opérer peut-être un renversement des rôles quant à la manière de penser l'urbanisation. On n'est peut-être plus dans l'idée de faire de l'urbanisation en construisant par le plein, mais par le vide et par la nature. En tout cas, c'est une autre manière de faire la ville, en pensant à patrimoine, alors pas que le patrimoine végétal, justement, à préserver, comme les grands parcs, les alignements d'arbres, mais bien une nature qui soit de véritables opérateurs de valorisation des zones urbanisées et urbanisées, et qu'il n'y aurait plus justement cette opposition entre une ville construite et le vide, mais bien une imbrication des deux, et c'est souvent fréquent dans les formulations, en tout cas des enjeux à la fois du diagnostic, puis après effectivement ça se décline dans le PADD sur des valeurs par exemple de vide nature qui sont accordées comme étant des éléments patrimoniaux forts à valoriser dans les grands projets. Je ne sais pas si je continue le détail ou si qu'est-ce qu'on avait prévu pour ouvrir le débat à nouveau. C'était plusieurs. Oui. Il y a encore. Attends. Oh, on était là. Ah oui, il y a encore tout ça. Mais je pense que c'est un peu redondant parce que je vois que le temps aussi est en train de nous rattraper. Oui.
On va essayer d'être bref sur les derniers points. Donc également un questionnement sur les méthodes. donc d'identification des patrimoines à l'échelle intercommunale avec plusieurs possibilités, hein, généralisation territoire intercommunal des méthodes d'identification et de catégorisation du patrimoine au sein du PLU d'une commune en particulier, généralement la commune centre, avec la difficulté que le temps de l'inventaire n'est pas le temps de réalisation du PLUI. Donc comment fait-on? Est-ce qu'on réserve pour des modifications ultérieures? Ça a été le choix fait par Strasbourg, le développement de l'inventaire sur d'autres communes, avec voilà, un consensus clair sur la méthode, sur les catégories. Donc en fait, les catégories développées pour le poste partiel du Neudorf ont été reprises pour le PLUI, généralisées à l'ensemble d'abord de la commune centre, généralisées à l'ensemble de l'Eurométropole, avec les maires ou adjoints, ça dépendait des configurations, chargés de valider, de faire remonter. Les éléments patrimoniaux relevant d'autres inventaires alternatifs qui ne rentraient pas dans ces catégories, par exemple des éléments paysagers, là, ont donné lieu plutôt à des OAP. Donc on a une première méthode, hein, c'est une commune qui donne le ton, en quelque sorte, hein, sur les méthodes d'inventaire et de catégorisation. On a d'autres possibilités, hein, des engagements inégaux également dans des marges d'identification et de protection patrimoniale pour se traduire par des compromis au niveau intercommunal, hein, pour adapter les niveaux de protection. On évoquait hier le PLUI de pleine commune, donc qui avait pour fond sur les PLU précédents, hein, un inventaire du patrimoine sous la forme d'un atlas réalisé par le département de la Seine-Saint-Denis qui nous avait été présenté, hein, au groupe de recherche lorsqu'on avait fait un terrain là-bas. Et donc là, les PLU avaient repris de façon différenciée ces différents éléments. Et dans le PLUI actuel, hein, la fiche propose des prescriptions ou des recommandations, ou ni l'un ni l'autre, mais un relevé, hein, néanmoins, d'éléments patrimoniaux. Et donc, on voit un différentiel d'intensité prescriptive, on pourrait dire, selon les patrimoines, mais surtout selon les communes. Donc, laissant, hein, le choix aussi là, hein, peut-être, d'avancer à des rythmes différents. Alors, ceci dit, on travaille là sur des, on va dire, des moments particuliers, hein, mais il faudrait replacer ces PLUI récemment réalisé dans une évolution. Donc on évoquait le déphasage entre temporalité du PLUI et inventaire. Donc l'Eurométropole Strasbourg, on l'évoquait, hein, retenu le principe d'une démarche homogène sur le territoire, mais en actant le fait que l'inventaire ne serait poursuivi progressivement. Hein. Chaque année, 2-3 communes font l'objet d'un inventaire coordonné par l'agence d'urbanisme. Voilà, donc des méthodes et temporalités différentes. On va peut-être finir là pour laisser la place à la table ronde. Donc on avait une troisième partie qu'on ne va pas développer, mais on va simplement passer directement à la conclusion, juste pour 2-3 points. Donc, on avait été optimiste. D'ailleurs, j'ai fermé le PowerPoint. Quelques conclusions. D'abord, hein, pour revenir, hein, sur cette pluralité des fonctions, mais ce qui me semble important aussi, c'est de dire qu'au-delà d'un inventaire avec une identification au zonage de différents éléments patrimoniaux, bâtis, non bâtis, etc., on retrouve quand même l'accent mis sur certains éléments plus que d'autres, et on peut les appeler des patrimoines prises du projet de territoire, puisque, hein, le projet de territoire, dans sa narration, dans les projets qu'il développe, s'en saisit aussi. Hein, voilà, donc ça a été évoqué, hein, dans différents cas. Le patrimoine devient également peut-être de façon plus particulière un outil de mise en cohérence, notamment à l'échelle intercommunale. Et puis à cette échelle intercommunale, on propose, hein, l'idée d'un patrimoine territorial ou métropolitain qu'on peut identifier de trois façons différentes, soit transversal lorsqu'on a un événement, hein, paysager qui structure le territoire, etc., en série lorsqu'il est diffracté, diffus, ou signal sur ce territoire. Et puis la dernière point, on l'évoquera pas puisque ça renvoyait à notre troisième partie. Voilà. Désolé d'avoir été un peu rapide, et merci pour votre attention post-déjeuner. Merci.